18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et les 18h jusqu'à 19h30, nous sommes ensemble. Ensemble pour commenter, analyser et décrypter l'actualité. Vous le savez, c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. Tous les soirs, quel plaisir, franchement, chers amis auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux. Moi, c'est le kiff total, vous savez. Plus il y a de monde, plus je kiffe. Mais c'est vrai, c'est devenu une famille, quoi. La famille des informés. Eh bien, franchement, c'est un véritable plaisir de se retrouver tous les soirs. Moi, quand je viens, vous savez quoi, c'est un vrai plaisir. Je me dis pas, oh, j'y vais, ça me fait chier. Pardonnez-moi la trivialité du terme. Mais je me dis, j'y vais, c'est un vrai plaisir de me reconnecter et de retrouver les auditeurs. Non, mais c'est vrai, je vous le dis sincèrement. Allez, au menu, au sommaire de cette émission. D'abord, je vais ouvrir l'antenne tout de suite. Parce que vous avez été nombreux à me dire que vous vouliez réagir. Certains et beaucoup d'entre vous m'ont dit que cette victoire du Maroc, c'est aussi la victoire de l'Afrique, la victoire du Maghreb, la victoire de l'Algérie, la victoire de la Tunisie. Eh bien, la question que je vous pose ce soir, vous le savez, c'est finalement cette fraternité, comment vous la vivez, cette union, à quoi vous la devez? Est-ce que finalement, c'est simplement que le foot qui fédère comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Parce qu'on parle aussi, vous savez, de tous ces mariages mixtes. Franco-Tunisien, Franco-Maroco-Algérien, etc., etc. Bref, j'ouvre le débat, j'ouvre le sujet. Au 01 53 48 3000, ce soir, c'est votre espace. Dès maintenant, vous nous appelez, faites exploser. Pardon, vous avez vu, c'est l'émotion. L'émotion, c'est lâché. C'était le petit jingle. Oui, absolument. 01 53 48 3000. Et Anthony vous prend, vous le savez, tout de suite, dès maintenant. Et ça commence à appeler, et ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, après 18h30, c'est Pascal Boniface, le patron de l'IRIS, qui viendra nous apporter son regard sur l'actualité. Et puis, les débatteurs influenceurs viendront commenter les sujets qui ont retenu notre attention ce soir. Voilà, c'est parti, les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant, et plus que jamais en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h, 19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Ah là là, 01 53 48 3000 jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Vous savez le fameux Kimo, tu te souviens le fameux matinal Je veux vous entendre. C'est vrai ou pas? Est-ce que tu t'en rappelles, Kimo? Tu t'en rappelles cette histoire-là? C'est qu'à cause de toi.
Je me souviens.
Qu'à cause de toi, c'est ta faute. Ouais. Maintenant, à chaque fois, non, je te jure, c'est vrai. Tous les soirs.
Je quand veux je, vous entendre.
Tous les, non, mais en plus, les standards, c'est bien. Tous les soirs, quand je dis je veux vous entendre. Voilà, je pense à toi.
Mais c'est bien parce que
je te jure, je dis, c'est toi, c'est ta faute. Je voyais ta tête là ce matin. Là.
Les auditeurs ont la parole et ça c'est important sur.
Tiens, reste avec moi. Je veux que tu restes avec moi parce que là on est inondé de coups de fil.
Je vois ça.
Non mais c'est tous les soirs comme ça. Hein.
Ça fait super.
Anthony,
plaisir.
Tu confirmes ou pas?
Ça fait super plaisir.
Dis-lui, non mais dis-lui. Si
j'ai jamais vu ça depuis que je suis là. Hey. Jamais vu autant d'appels.
Faut dire aussi que juste avant il y a un numéro 10 qui prépare le terrain.
Attendez. Allez, on va recevoir. Quel est le premier coup de fil? Tiens, comme ça, tiens, Kim, reste avec nous, Kim. Je veux qu'il reste avec nous. Attends, c'est tellement rare dans les informés, je voudrais qu'il discute avec nos auditeurs. Bonsoir, à qui est-ce l'honneur, s'il vous plaît? Bonsoir. Allô?
Bonsoir, c'est Nabil.
Oui, mais attendez, faut mettre les auditeurs là sur le.
On les entend pas.
Si, j'entends. Ah, tu l'entends?
Oui, Nabil.
Ah, Nabil, tu nous appelles d'où?
Oui. Où ça? De Mantes.
De Mantes-la-Jolie.
Mantes-la-Jolie.
Eh, vous savez que Mantes-la-Jolie, on a fait la fête, mais c'était impressionnant concernant la victoire.
Vous avez fait une fête pas possible.
D'ailleurs, Adil Farkan, il y a le commissariat de police qui voudrait que tu rendes le scooter que tu as volé.
Nabil, il y a Kim qui est avec nous. On vous écoute, qui est Nabil.
Bah écoutez, moi je suis très content. Moi je suis je suis algérien, mais je suis fier pour nos frères marocains. Il faut arrêter de créer cette friction du Maghreb ou africain, comme j'ai vu la dernière fois, enfin juste hier, que Boufal a oublié de dire cette victoire est dédiée pour toute l'Afrique.
Ouais,
on a
c'est
fait
vrai.
Tout un pas de la caisse pour ça.
C'est
pas normal, vous voyez. Moi je suis algérien, j'étais content pour l'Algérie, et là voilà, comme le Maroc ils nous représentent un peu.
À quoi on doit cette fraternité, Nabil? On la doit à quoi? Est-ce que c'est parce que finalement, c'est le foot qui fédère cet engouement concernant les différents peuples?
Bien sûr. Déjà, le foot, ça fédère. Et surtout, c'est qu'on est musulmans. Avant tout, on est des frères. Je pense, hein, moi, ça m'a raison de penser, elle est comme ça. On a cette rivalité comme tous les pays. Quand on joue, l'Algérie, le Maroc, il y a toujours cette rivalité. On veut toujours que notre pays gagne, mais c'est normal. Mais quand on arrive dans une compétition qui est énorme comme ça, moi, pour moi, c'est, voilà, on est derrière un pays qui représente, on va dire, le Maghreb, les musulmans et les Africains pour mettre tout le monde dans le même sac, vous voyez. Et ça, c'est une fierté pour tous les musulmans et pour tous les Arabes, entre parenthèses.
Absolument, absolument. Merci, Nabil,
donc,
pour ces mots.
Donc, voilà. Encore félicitations aux Marocains.
Et j'espère. Comme je disais à Kim, c'est vrai que ce fameux « je veux vous entendre » est important parce que la radio, c'est vous. C'est vous d'abord, c'est pas nous, c'est vous au 0153-48-3000. Nabil, merci. Donc, j'imagine, rendez-vous samedi alors à 16h.
Ben ouais, il faut tous derrière le Maroc. Et j'espère qu'ils vont, comme on dit en arabe, « hamro oujet » tous les Arabes.
Ah, j'aime bien cette expression.
On va y aller jusqu'au bout, Inch'Allah.
Eh bien, écoutez, j'aime beaucoup cette expression. Merci à vous, mon cher Nabil.
Allez,
merci.
Bon courage. Prenez soin de vous.
Prenez soin de vous aussi, du côté de Mantes-la-Jolie. Ça fait plaisir.
Allez, au revoir. Bon courage. Merci.
Merci, merci. Toulouse.
Allez,
Toulousain. Bonsoir, mon cher Mohamed de Toulouse.
Oui, bonsoir, monsieur Adil.
Bonsoir, Mohamed. Comment ça va?
Ça va et vous?
Très bien, et vous-même?
Non. Ça va, merci. Ben, je vous entends tout le temps, toujours, tous les jours. Sur les informés. BRFM, je l'attends le matin, la matinale et l'après-midi.
Il est là, Kim, il est là, il vous écoute, Kim. Notre Kimo international.
Et moi là aussi.
Notre frère Kim.
Voilà, c'est ça.
Vas-y, il vous écoute aussi le matin, il t'écoute aussi le matin.
Bonjour, monsieur, bonsoir, vous allez bien?
Oui.
Ça va, merci, vous.
Ah bah, très bien, alhamdoulilah, on est très heureux de vous avoir parmi nous, ça fait plaisir.
Ben, j'ai essayé d'entrer le matin, mais j'arrive pas de...
Profitez-en, Mohamed.
Ah oui, attention.
C'est rare d'avoir Kim le matin et ici même dans les informés. Profitez-en, chers amis.
Nous, le matin...
C'est une bonne occasion.
On fait gagner des gros cadeaux, monsieur Adil Farkan, le matin, nous.
Ouais, mais nous aussi, on fait gagner des cadeaux. Vous savez, c'est le cadeau de quoi?
Oui.
C'est le cadeau de l'amour.
La libre antenne.
Ah, le cadeau de l'amour. Il y a pas que...
On fait gagner des voyages, nous, monsieur, à 3000 euros, monsieur, le matin.
Ah oui, il y a toujours des cadeaux le matin.
C'est ça, Kim, c'est ça. Nous, c'est l'amour.
On a pris tout le budget, nous, on a pris tout le budget. Voilà.
Ça, je confirme. Je vais m'adresser à Gemma. Voilà. Donne-nous un petit peu quelques biscuits pour les informer, si vous nous écoutez.
Non, parce que vous faites travailler une partie du cerveau qui est l'intellect. Nous, on fait partie. Nous, on fait partie du plaisir.
Qu'est-ce que ça me manque?
Très bien, toute l'équipe de BRFM.
Merci à vous.
Merci, Mohamed, merci. Alors, on vous écoute concernant le foot.
Justement, moi, je suis marocain, je suis très, très content comme les autres pour la victoire du Maroc.
Oui.
Par contre, il vaut mieux, à partir de Brésil, je vais passer un message à tous les Marocains du monde, et surtout en Europe, vaut mieux fêter le fait comme il faut, pas salir l'image du Maroc et l'image de l'équipe du Maroc. En faisant n'importe quoi dans les rues, en cassant, en faisant le bordel dans les rues.
Oui, oui.
Donc la fête, c'est pas ça la fête. La fête, c'est exprimer la joie, c'est pas comme ça.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est pas en brûlant, en cassant, en faisant n'importe quoi dans les rues.
Heureusement que ça reste une minorité, cher ami, vous
le savez. Ça, c'est pas une fête, ça.
Mais vous le savez, ça, que c'est une minorité.
Ah ben c'est passé par dans plusieurs endroits, en Belgique, en France, et un peu partout, quoi.
Heureusement, Mohamed, je vous le dis clairement, heureusement que ça représente qu'une mince, fine minorité, évidemment, qui parfois peuvent causer des dégâts.
Cette majorité, pour le coup,
est dans un esprit bon enfant. C'est ça qu'il faut retenir, Mohamed.
Ouais, mais c'est pas bon. Même pour l'équipe du Maroc, c'est pas bon. On donne la mauvaise image à l'équipe au Maroc entier. Et aux Arabes en général.
Exactement. Merci, mon cher Mohamed, d'être intervenu. Ça fait plaisir.
Merci, monsieur Adil.
Merci, monsieur Mohamed. Merci.
Allez,
à vous.
Passez une bonne soirée. Merci. Merci à vous et merci à BRFM, à toute l'équipe.
Merci à vous et restez fidèles avec nous, justement. 18h10, on continue d'ouvrir l'antenne 0153-48-3000. Venez justement ici même, c'est ici que ça se passe, dans les informés, votre espace de liberté. Sofiane du 75. Bonsoir, Sofiane. Comment ça va, mon cher Sofiane?
Ça va, très bien.
Tout va bien? Calme, quelle sérénité, Sofiane.
C'est bien.
J'aime bien, là.
Les bouchons, il faut être serein.
Ouais, il faut être serein, c'est vrai. Alors, Sofiane, racontez-nous un peu, dites-nous tout.
Félicitations tout d'abord à l'équipe marocaine, qui nous ont rendu fiers. Et puis, félicitations à tous les Maghrébins, et puis à toute l'Afrique.
Oui, c'est pas faux.
Le football africain, maintenant, il a son mot à dire.
Exact.
Et puis voilà. Et puis il faut pas s'empêcher de rêver pour les autres équipes pour plus tard. Ça ouvre des portes à pas mal d'équipes, comme l'Algérie. On se souvient en 2014, elle était à deux doigts de créer l'exploit aussi contre l'Allemagne.
C'est pas faux. Oui.
C'est pas interdit de rêver.
C'est pas interdit de rêver.
Donc, l'entraîneur marocain le dit, le répète à chaque fois, et je pense que maintenant il faut y croire vraiment. Voilà.
Oui. Faut y croire jusqu'au bout, hein. C'est pas. Vous avez raison, c'est vrai. À quoi on doit cette fraternité, mon cher Sofiane?
Bah, la fraternité, elle vient surtout entre peuples. Ici en Europe, on traîne ensemble, on mange ensemble, on travaille ensemble. C'est normal que cette fraternité.
Il y a même des mariages, les mariages qui sont quasiment courants, Sofiane.
Et j'oublie pas mal d'autres choses. Mais après, ce qui se passe sur le niveau politique et tout ça, c'est désolant.
Oui.
Parce que ça reste quand même deux pays frères. Maintenant, on voit même. C'est malheureux de dire ça, parce qu'on voit sur les réseaux sociaux maintenant que la télé en Algérie ne prend pas ça. Comment dire? Comme une info festive.
Oui.
Enfin, ils en parlent vaguement.
Oui.
Comme ça crée ça. En fait, voilà.
Oui.
Ils ont la preuve A plus B que les gens s'entendent très très bien. Et puis, eux, de l'autre côté, continuent à créer cette. Des deux côtés, hein, que ce soit. Je suis marocain. Mm. Et même du côté marocain, avec les poches à deux balles, si je peux me permettre. Qui commence à créer de la zizanie pour rien du tout.
Ouais.
Puis voilà. Moi, je pense que c'est aux médias, c'est aux grands. Les médias d'abord, les médias officiels.
Ouais.
À eux de rapprocher les peuples et puis d'arrêter cette guerre qui sert à rien.
Une guerre qui sert à rien. Merci d'être intervenu, Sofiane. C'est très important, c'est vrai, il faut le dire. C'est bien parce qu'on a tous les points de vue et c'est très important de l'exprimer ce soir dans les informés, comme vous le faites de plus en plus nombreux. Merci Sofiane à vous d'être passé sur l'antenne, vous êtes parisien et restez fidèle justement. Tiens, merci à vous surtout. Tiens, Malika, vous nous appelez du 93, mais quelle ville finalement du 93, Malika?
De Stein.
Stein, ne bougez pas, on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite après, vous êtes d'accord?
Oui, il n'y a pas de souci.
À tout de suite, ma chère Malika. 01 53 48 3000, je vous attends partout en France. Venez parler de cette fraternité, de cette union concernant la victoire marocaine. Est-ce que finalement, c'est une victoire tout court des Africains et des Maghrébins? À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 18h21, merci d'être avec nous. Les jingles, c'est parti, les auditeurs ont la parole.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Et on le disait avec Kimo justement à l'instant. Je veux vous entendre partout en France exploser le standard 01 53 48 3000. Je vais retrouver Malika de Stein. Malika, vous êtes de retour. Comment ça va, ma chère Malika?
Ça va très bien, très bien.
Bon.
Je finis ma journée là.
Oui.
Le matin, je suis tout le temps avec Kim et Mona. Le soir avec Adil Farkan.
Ah, c'est beau, ça fait plaisir hein, quand même.
Je vais me traduire.
Comment?
Oui, je voulais juste participer à votre émission. Hein.
Bien sûr, allez-y, je vous en prie.
Oui. Je voulais dire une chose, c'est pour le Maroc et l'Algérie. Si les frontières ils sont fermées, nos cœurs ils sont ouverts. Mmh.
Nos cœurs sont ouverts.
Ouais.
Ah.
Nos cœurs ils sont ouverts.
Ouais.
Voilà, pour moi, le Maroc, la Tunisie, tout le Maghreb, c'est un seul pays. Hein. Normalement, c'est un seul pays. On était divisés. Il y a un siècle et demi de là, c'était pas le Maroc tout seul ou là, c'était un seul pays du Maghreb. Hein.
Ouais.
Voilà. Mmh. En plus, ma fille, elle est mariée avec un Marocain.
Mais le nombre, vous imaginez pas, le nombre de mariages, justement, c'est impressionnant.
Oui, oui.
Impressionnant. Oui, moi, j'imagine qu'ils ont dû vivre quelque... Ça a dû être quelque chose, quand même, hein, cette histoire de exactement, ce match, et encore plus samedi prochain, parce que c'est à 16h. Et certains se sont déjà préparés. 01 53 48 3000, merci Malika d'être intervenue.
De rien, du coup, on est avec eux jusqu'à la fin, hein. Il n'y a pas de raison. Hein.
Ben, exactement. Voilà. Exactement.
On espère que le Maroc gagne. Voilà.
Eh ben merci Malika. Merci à vous.
Bonsoir. Merci à vous. Au revoir.
Jamila nous appelle d'où? Jamila, bonsoir.
Bonsoir, j'appelle des Bouches-du-Rhône.
Les Bouches-du-Rhône, quelle ville précisément?
Gréasque, entre Aix et Marseille.
Entre Aix et Marseille. Bienvenue, welcome, bienvenue Jamila, on vous écoute.
Moi j'appelais pour soutenir les Marocains. Bon, je suis algérienne, bien sûr, mais je soutiens les Marocains et je voulais surtout féliciter les Algériens qui se sont déplacés pour la Coupe du Monde. Ouais, franchement, ils ont assuré.
On envoie des drapeaux algériens au Qatar à Doha. Ouais, c'est vrai, hein.
Ouais,
c'est impressionnant.
Ouais, franchement. Ouais, ils assurent, ils sont au top. On est au top, les
DZ. C'est vrai, bravo. Ça fait plaisir.
Bravo à eux. Ouais,
ça fait plaisir. J'ai vu les images, effectivement, sur beIN Sport. Et,
Ouais, moi je l'ai su. Sur TikTok, et franchement, je trouve ça merveilleux, quoi. Ils font la fête.
C'est beau, cette fraternité, hein.
Ouais, franchement, ils assurent. Honnêtement, ils assurent. On assure les DZ, je le redis.
Ouais, c'est beau. Ben, merci, Jamila, d'être intervenue.
Merci, bonne soirée.
Je vais aller, à Oran, de l'Algérie, tiens. Qui ai-je l'honneur, à Oran, du côté
de... Monsieur Lagdar, bonsoir.
Monsieur Lagdar, bonsoir. Vous nous appelez d'Oran, vous?
Je vous appelle Doran, oui.
Ça fait plaisir. Avant-hier, on a eu un appel de Marrakech. Maintenant, on a un appel d'Oran. C'est génial.
Et vous en aurez peut-être plusieurs.
Mais c'est génial. Moi, ça me fait plaisir. C'est génial.
Et qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas content, vous, que les Marocains ont gagné?
Ben, écoutez, tout le monde est content, je crois. Il n'y a pas que moi, non. Tout le monde est content, il me semble.
Et chez nous aussi,
tout le monde est content.
Tout le monde est content.
Comment vous vivez, vous, Oran, là? Comment ils vivent cette victoire?
Ah ben, ils sont très contents. Il y a des gens qui... Ils ont pleuré par la victoire des Marocains.
Ouais.
Et on espère qu'ils vont gagner maintenant le Portugal. Ils vont en finale, Inch'Allah. Le Olympique.
Ouais. Écoutez, on est très contents.
Les Marocains, c'est nos frères.
Ouais, c'est vrai, vous avez dit le mot.
C'est nos frères, la main dans la main.
Ouais.
On ne s'occupe pas d'autre chose. La politique, on ne parle pas.
Ouais.
Mais les Marocains avec les Algériens, la main dans la main.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est vrai. On souhaite
bonne chance aux Marocains.
Ça va être quelque chose samedi, hein. Ça va être quelque chose, l'ambiance, samedi. Hein.
Ouais, alors, même ici, chez nous, comme il y a le match dans le Maroc, ben, vous ne trouvez pas un chat dehors.
Ça y est, vous avez pris rendez-vous. Le rendez-vous est pris pour samedi. Ça se passe où pour vous?
Tout le monde attend cette journée.
Ouais.
Et si vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont pleurer, les gens, de la victoire des Marocains.
Ils sont très contents. Bah écoutez, dans le monde entier, hein, les franco-maghrébins, je parle des maghrébins, voulaient se rendre à Doha, là, en ce moment, là, pour ce week-end. C'est impossible. Ouais. Ils voulaient se rendre à Doha. C'est impossible. Ouais. C'est complet partout. Les billets pour le stade, les billets pour les avions, les hôtels, full, il n'y a plus de place. C'est impressionnant.
Hier, j'ai entendu. Une personne, sa femme, il l'a emmené à la clinique pour accoucher.
Ouais.
Et ouais, il lui a dit, bon, ta femme, elle est malade, elle va accoucher, reste à côté de ta femme. Et sinon, je vais voir le match.
Il lui a dit, je vais voir le match. C'est génial.
J'ai entendu ça hier. Et il a pris l'avion, il est parti au match.
Nadir, qu'est-ce que vous voulez dire, Nadir?
Non, juste que le roi du Maroc a affrété, je crois, 7 avions ce matin à 9h les ventes.
Mais c'est complet.
Midi, c'était fini.
C'est historique ce qui se passe. Il y a un truc qui s'est passé. C'est pour ça que je le disais à Lagdar. En quelques minutes, c'est pas en quelques heures. Mm-hmm. Quelques minutes. J'ai jamais vu ça.
Le parcours est exceptionnel, le tout est exceptionnel. Ouais.
Lagdar, merci d'avoir appelé depuis Oran. Et puis bon courage, bon match pour samedi.
Allez, merci, ça va.
À bientôt, revenez quand vous voulez.
Merci, ça va.
Rachida de Toulouse, tiens, une Toulousaine. Bonsoir, Rachida.
Bonsoir.
Comment allez-vous, ma chère Rachida?
Ça va, alhamdoulilah.
Bon, tout va bien. Bon, on vous écoute, bienvenue.
Ça va. Oh,
voilà, vous, êtes, vous vivez encore la victoire, vous. Hein. Ah, on voit, vous la vivez encore, là. Ça y est, là, c'est encore dans la tête, là. Hein. Ça ne partira pas.
Ah, on la vit, on la vivra, Inch'Allah. Et ben, pour tous les peuples musulmans, algériens, tunisiens, sénégalais, toute l'Afrique, quoi.
Ouais, c'est vrai, vous avez raison.
Voilà. Et on va avancer à l'unisson et Hawa Hawa, et rien ne nous séparera.
Vous avez failli vous rendre à Doha, nous, vous, non?
Non, pas du tout. C'est trop loin pour moi.
Admettons, ils sont en finale, en demi-finale. Vous y allez ou pas?
Non, je reste chez moi, auprès des miens, auprès de mes beaux-frères algériens, de mes belles-sœurs algériennes, et on le regardera tous ensemble, Inch'Allah.
Bah écoutez, on vous le souhaite. C'est bien, c'est beau, Inch'Allah. Cette fraternité quand même, hein.
Ben, c'est beau, c'est ce qu'il faut montrer, parce
ouais,
que
c'est vrai.
Les médias font que qu'ils savent appuyer ou ça fait mal pour nous séparer, mais ils n'y arriveront pas.
Exactement. Voilà. Merci Rachida d'être intervenue.
Ben, je vous en prie. Bonne soirée tout le monde.
Et surtout de nous avoir mis l'ambiance, c'est bien, c'est beau.
Merci, au revoir.
Merci.
Au revoir.
Ouda, vous arrivez où, Ouda? Bonsoir, Aix-en-Provence.
Bonsoir.
Vous arrivez où? Vous arrivez dans les studios de Beurre FM, c'est ça?
Voilà.
Eh ben, bienvenue.
Alors, on vous appelle d'Aix-en-Provence. Là, il pluut.
Oui, j'entends la pluie.
Voilà, on est en voiture. Je suis avec mes enfants.
Oui.
Et on aimerait bien, par BFM, de souhaiter bonne chance au Maroc.
Oui.
Et de remercier aussi tout le monde, toutes les personnes qui ont soutenu le Maroc. Non, moi, je suis marocaine. Et je suis tout à cœur avec eux. Et merci aux Africains, merci à tout le monde, quoi.
Ouais, ça fait plaisir,
voilà.
Hein.
Voilà, et bonne chance.
Ça se passe où, samedi prochain, ça se passe où, alors? Chez vous, dans un café, dans une association, ça se passe où?
Alors, je suis étudiante infirmière et je suis en arrêt maladie, ça va se passer chez moi.
Pour pas vous faire
griller. Ça tombe bien.
Ça tombe bien.
Ça tombe bien, voilà, mes enfants, on est tous fiers du Maroc, de l'équipe. Et j'aimerais bien qu'ils restent comme ça, surtout, qu'ils changent pas, que voilà, cette fierté de leur pays, de leur famille surtout.
Oui.
Vraiment, voilà, je veux qu'ils restent comme ça.
Eh ben, écoutez, on vous souhaite bon match voilà. Pour samedi.
Et samedi. Merci à vous de voilà de nous donner cette chance
mais
de parler
normal.
Pour
c'est normal, c'est le
Miss France.
C'est le lieu.
Et vive le Maroc.
Merci Oda d'être intervenue.
Allez, merci aux Lions, au revoir.
Merci à vous, les Lions de l'Atlas, effectivement. Riyad, vous nous appelez d'où, Riyad? Bonsoir.
Salut Adel, comment va? Ça
mais
va
très bien, mon cher Riyad, très très bien.
Franchement, le Maroc, il nous a enchantés.
Ouais, ouais.
Voilà, tu sais ce que je vais dire, vive le Maroc, vive l'Algérie, vive tout le pays du monde.
Ouais,
mais le
vrai.
Maroc, ce qu'il a fait, ouais. Il a vraiment impressionné tout le monde. Pensait que l'Espagne allait mettre 2, 3, 4 euros comme mes collègues de boulot.
Ouais.
J'en ai dit, vous allez voir. Et en plus, Hakimi, la Panelka qu'il a mis, alors ouais. Là, elle est belle.
Ah, la Panelka,
alors moi,
c'est
tu
vrai.
Sais quoi, je vais te faire une promesse.
Ouais.
Écoute bien. Hein.
Ouais.
Si le Maroc, Inch'Allah Brabbi,
ouais.
Il démonte le Portugal,
ouais.
Je passe avec mon camion plateau sécurisé. Ouais. Rendez-vous au pied de l'Arc de Triomphe.
Allez.
Je fais monter les gens et je descendrai les Champs-Élysées.
Et vous nous appellerez pour qu'on vienne médiatiser tout
je
ça.
Je te promets.
Et on sera en direct. Et on sera en direct avec vous.
Il n'y a pas de souci, mais franchement, Inch'Allah, il y a la paix entre tous les pays du monde. Parce que moi, je me rappelle en 1992, lorsqu'ils avaient ouvert les frontières, j'ai emmené mon père et ma mère. On a pris le bateau à Sète jusqu'à Tanger de leur vivant. Et j'ai remonté toute la côte marocaine pendant 8 jours. C'était machallah, il n'y a rien à dire.
Exactement.
Rien.
Exactement.
J'espère qu'on va enterrer Adlan de guerre et qu'on redevienne vraiment copain, copine, copine, copain, etc. etc. T'as
frère.
Besoin d'une bricolée, je te la donne, etc. Et
merci
que
Riyad.
Avec nous, voilà.
Merci Riyad et le rendez-vous est pris. Hein.
Je t'ai dit pour le score, 2-0 pour le Maroc.
Eh bien, écoutez, tout est lancé. Merci Riyad, vous nous
merci
avez.
Croyant,
allez, alors. À très bientôt, frère, mais à vous aussi. Sadia de Montpellier, bonsoir Sadia.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à vous, ma chère Sadia, on vous écoute.
Ah bah écoutez, c'était pour dire que j'étais hyper fière du Maroc.
Oui.
Et de tous les soutiens qu'on a eus, voilà, de tous les pays maghrébins et autres, hein, les pays d'Afrique et tous les autres pays. Franchement, c'était une très très belle victoire. Ça nous a réchauffé le cœur.
Oui.
Ça nous a reboosté et on espère qu'ils vont continuer et qu'ils vont gagner.
Eh bien écoutez, samedi, le rendez-vous est pris.
Voilà.
Merci Sadia de Montpellier.
C'est gentil.
C'est bon, hein, toutes les villes sont présentes. Hein. C'est impressionnant. Tout le monde, on nous appelle de partout. C'est ça.
C'est l'euphorie.
C'est la magie de la radio.
La radio, et le sport.
Le sport, ça. Rendez compte quand même que le ballon, ce que ça procure.
Bah, c'est une grande bulle d'air. C'est
le ballon, ce que ça procure.
Cette vie politisée.
C'est incroyable. Ouais. Allez messieurs, mesdames, tout de suite, vous savez quoi? On va retrouver le Quad 9... s'il répond dans une poignée de minutes, mais surtout le face-à-face, mais vous aussi, au 0153 48 3000. Allez, à tout de suite, on marque une pause.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les informés, présentés par Adil Farkan.
Et les 18h40, merci d'être avec nous. Si vous nous suivez, vous le savez, 0153 48 3000. Vous continuez de nous appeler, c'est parti pour le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Un petit tour de table avec cette victoire du Maroc, mais également aussi, est-ce que vous allez la suivre samedi prochain? Mais surtout, cette subvention, je voudrais vous faire commenter quelque chose de complètement absurde, cette subvention qui a été supprimée parce qu'il y avait des incivilités, des débordements sur la ville de Fréjus par des supporters marocains. Donc, à ce titre, le maire du Rassemblement National de Fréjus a décidé de supprimer les subventions. Comment ça vous fait réagir, ça, Nadir? Tiens, je fais un tour de table. Nadir Kaya, président de banlieue.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
C'est la suite de notre discussion en off, rien de nouveau. RN, FN, c'est la même philosophie à la base. C'est un parti politique
qui
se
base sur
la haine des autres, et notamment liée à l'immigration, notamment les Maghrébins, les Noirs. Donc là, ils trouvent une excuse pour... sanctionner des débordements et sanctionner des associations, mais on voit pas le lien, même juridiquement, comment il peut établir un lien entre des dégradations, des incivilités, des associations qui travaillent au quotidien avec des citoyens dans le besoin, comme ça a été rappelé là à l'instant. C'est de l'incohérence, mais malheureusement, c'est une réflexion qui est basée sur l'opinion publique française aujourd'hui. L'opinion publique française, elle est habituée à ce qu'on tape sur les minorités, à ce qu'on fait croire qu'en tapant sur les minorités, sur notamment les Maghrébins ou les gens de banlieue, on va résoudre les problèmes. Donc là, ils sont même pas dans la réflexion. Eux-mêmes sont dans l'émotion, mais une émotion qui est basée sur la haine de l'autre. Donc, ils sont à l'image du RN et du Front National dans leur logique historique.
Ça va nous provoquer... Ça va amplifier la haine encore davantage hein, dans le quartier justement de Fréjus.
J'invite les associations locales à porter plainte contre le maire pour ce genre de posture parce que il fait un lien entre la violence et des associations qui travaillent normalement au quotidien.
Absolument. Je continue de saluer Aminsa qui est un élu de la Courneuve. Bonsoir Aminsa.
Bonsoir Adil Farkan.
Une autre élue, l'élu de Creil, Jessica Elonguer. Bonsoir Jessica Elonguer.
Bonsoir tout le monde.
Aminsa justement, parlons-en. Non, le maire
David Rachlin, le maire de Fréjus, est coutumier du fait. C'est que on a déjà eu affaire à ce genre de sortie un peu hasardeuse de sa part.
Ouais, mais là, le lien avec les incidents.
C'est souvent pour faire un
Il a déjà fait des sorties hasardeuses, mais là, le lien avec les incidents. Ah, genre, ça. Je vous punis.
Moi,
vous avez fait des débordements, donc je vous punis. C'est un peu ça, engagé.
Tout simplement qu'il a face à lui sans doute des associations culturelles ou sportives qui ne lui sont pas acquises politiquement et que depuis un moment il doit chercher sans doute à les mettre de côté et du coup à les affaiblir sans doute et il s'est trouvé
c'est pas malin, c'est pas intelligent
là. C'est pas intelligent parce que
c'est pas intelligent parce que ça fait qu'augmenter, comme dit Nadir Kaya, ça ne fait qu'augmenter la haine dans la tête du quartier de Fréjus, des jeunes, des habitants des quartiers de Fréjus.
Ça ne sert pas le tissu associatif qui œuvre au quotidien, qui est un réel maillon du service public. Hein, le monde associatif, on le dit pas assez parce que souvent il se substitue à des manquements du service public et donc que ce soit les associations culturelles, que ce soit les associations sportives ou toutes sortes d'organisations bénévoles doivent pouvoir œuvrer sans avoir en permanence la pression politique, quel que soit le territoire, que ce soit dans un territoire acquis au Rassemblement National ou dans d'autres territoires acquis par des partis plus républicains.
Parce que
ces pressions-là, elles existent réellement et pas uniquement dans les villes tenues par le Rassemblement National.
Non, c'est un bon sujet parce qu'il y a des réalités, notamment avec ces enjeux politiques dans des villes où quand vous n'êtes pas afféodé à un maire ou à un parti où vous n'avez pas de subvention, vous n'avez pas de locaux, je parle en connaissance de cause du côté de Gennevilliers, quand vous n'êtes pas soumis à une certaine politique, quand vous faites des choses que la mairie n'est pas capable de faire, ou quand vous proposez simplement des choses à des problèmes qui existent depuis longtemps, ben vous êtes mis de côté, ou alors vous êtes carrément blacklisté. Moi, c'est le cas de mon association et de beaucoup d'autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, le tissu associatif est, en France, en plus, c'est l'un des plus riches d'Europe. C'est, je crois, un Français sur quatre qui est dans le domaine du bénévolat, de l'associatif. C'est une vraie richesse en France. Et là, ce maire-là, je ne citerai pas, même pas son nom, nous rappelle à quel point le milieu associatif est important dans les villes. Mais quand il fait ça, on sait très bien que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une réaction émotive, mais aussi basée sur l'ADN du RN. Mais il le fait politiquement aussi pour rappeler certaines choses d'un point de vue local. Donc c'est peut-être aussi une vengeance vis-à-vis de certaines associations locales.
Jessica Ellonguer, vous aussi, vous êtes élue, c'est vrai, vous êtes confrontée à tout ça. Supprimée, comme c'est une subvention, avec comme prétexte, vous avez fait des débordements, donc je vous la sucre.
C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi et c'est vrai qu'il y a pas mal d'associations pour X ou B raisons sont souvent mises sur la sellette et donc du coup on met en jeu leurs subventions. Faut savoir que.
Mais surtout que là, les associations, de ce que j'avais compris, pardonnez-moi de vous interrompre, c'était pour la crèche, c'est ce que j'ai entendu, et pour les personnes illettrées qui veulent apprendre le français.
De toute façon.
C'est un soutien.
La corrélation entre subvention et débordement incivilité, il n'y en a aucun. Au contraire, même, c'est que s'il y a des incivilités, le maire de Fréjus a tout à fait doit renforcer les subventions auprès des associations pour participer à l'inclusion sociale, aux projets de citoyenneté, de culture, etc. Donc moi, je vois pas pourquoi on va mettre en difficulté les familles, notamment si là on parle de crèches. On va mettre en difficulté, même on va favoriser l'exclusion sociale si on enlève des subventions à une association qui travaille contre l'alphabétisation et l'illettrisme. Donc c'est n'importe quoi. Mmh. On peut pas accepter ce genre de choses. Et moi, j'invite les associations, si jamais il va jusqu'au bout de sa logique, à faire un recours.
Un recours,
tout simplement.
Qu'est-ce qu'il peut faire?
Déjà apporter plainte, déjà voir des personnes compétentes dans le domaine de la justice, des avocats ou des spécialistes du domaine, et voir s'il y a matière à porter plainte, parce que c'est scandaleux, mais bon, on sait très bien qu'il y a autre chose derrière tout ça. Et puis le RN ou FN, ils sont pas connus pour être intelligents. Tout à l'heure, on parlait d'intelligence. Je me souviens pas qu'ils aient eu des postures intelligentes. En général, ce sont des gens, comme je vous ai dit, qui se basent sur la différence des autres pour vivre politiquement. C'est pas des gens qui sont dans la réflexion poussée, dans le vivre ensemble. Ce sont des gens qui comprennent aussi le monde médiatique, quoi, politico-médiatique aujourd'hui. Donc avec des petites phrases, on fait le buzz et puis l'accumulation de buzz peut vous aider dans les élections. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la réalité, c'est que les Français, malheureusement, ne réfléchissent pas beaucoup. Ils sont aussi dans l'émotion et quand il y a des enjeux politiques, ils se souviennent des petites phrases ou des petites postures de certains pour taper. Généralement sur les minorités.
Jessica Ellonguer.
Vraiment, c'est juste une phrase, mais c'est pour ça que tout le monde, dans la mesure où la personne est concernée, peut contester une décision administrative. Mmh. Donc, on peut contester. Donc, j'invite vraiment les associations à se saisir de la question, parce que souvent, on est pris au dépourvu.
Et ne pas répondre par la violence.
Mais il a parlé de moratoire.
Pour l'instant, il n'y a pas de décision. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune délibération qui
a été
votée.
Mais il y a une volonté quand même.
Il y a un discours, il y a des déclarations de la part du maire de Fréjus, mais il faut se le dire, il est évident, et même l'ensemble des élus vous le diront, les associations sont le premier rempart justement aux dérives que l'on peut voir auprès de la jeunesse. Et donc, je ne crois pas que ce soit intelligent de sa part de s'engager dans cette voie-là. Et je ne crois pas, par ailleurs, que ce soit réellement son intention. Je pense que son intention, elle est d'abord de faire le buzz, de faire parler de lui, parce que d'ailleurs, depuis un moment, on n'en parlait plus beaucoup parce qu'il était l'un des lieutenants de Marine Le Pen. Depuis qu'elle en a 88 à l'Assemblée nationale, il était un peu en retrait, au second plan. Mmh. Et donc, je crois que par cette sortie un peu hasardeuse, il a voulu se redonner quelque part une ampleur nationale qu'il n'avait plus depuis un certain moment.
Allez, un sujet, vous savez quoi, qui continue de provoquer un long débat, c'est justement la coupure d'électricité avec le coup de colère d'Emmanuel Macron, mais également aussi cette inquiétude, vous savez quoi, qui est très présente chez les habitants, chez les Français, mais et soucis surtout, selon le directeur de RTE, eh bien, il dit visiblement, il n'y a pas de risque de coupure avant 2023. Ce qui sous-entend que en 2023, il y a des risques de coupure. Nadir Kaya, à quoi on peut s'attendre? Parce que ce débat-là, finalement, on n'y comprend plus rien, franchement.
Je crois que t'as tout dit, juste à la fin, on n'y comprend plus rien, parce que le gouvernement lui-même par le biais de certains ministres, nous prépare un petit peu comme un peu comme le Covid, en nous disant que il faut se préparer éventuellement à des coupures. Je crois que ça fait quelques mois que ça dure. Donc ils ont envoyé ce message subliminal aux Français. On l'a compris. Maintenant Macron nous fait la chose à l'envers en nous disant que non, il faut pas s'inquiéter, mais bon, il a quand même lancé le message. C'est un peu la politique qu'on subit en France depuis toujours. On dit tout et son contraire dans la même journée, parfois même dans la même heure. Il y a plus rien qui me surprend. Moi, ce qui me désole, c'est qu'on est quand même un grand pays. On a quand même des centrales nucléaires. On est connu pour ça. Je me souviens qu'à une époque, on nous expliquait que la France avait tellement en termes de production qu'elle était capable de vendre le surplus à l'Allemagne et à d'autres pays frontaliers. Moi, je comprends plus rien là-dessus. On entend aussi des spécialistes nous parler d'énergie. Là aussi, on a tout et son contraire. Malheureusement, c'est ce qu'on va avoir pendant encore des années, parce qu'on a habitué les Français à ne pas avoir de solution et à les inquiéter sur tous les sujets.
Pour vous, le scénario, il est similaire que de celui du Covid. En gros, on nous prépare, mais là, ils s'y prennent très mal.
Oui, similaire sur certains aspects, notamment sur la communication. Là aussi, je pense que... moi, je suis très critique sur Macron et sur ce qu'il a pu faire sur le Covid, mais bon, il a quand même fait certaines choses, notamment pour préserver l'emploi et notamment les petites sociétés, de par certaines mesures, ça on peut le reconnaître. Mais là encore, il joue le jeu de la désinformation, l'information, et on n'y comprend plus rien, parce qu'on est quand même un pays riche, même si d'année en année, on est relayé, je crois qu'on est à la 6e place aujourd'hui, septième. Mais on reste quand même une grande puissance avec des capacités. Quand on voit un petit peu les différentes compétences qui existent en France, les chercheurs dans le domaine de la recherche, de l'innovation, et qu'on est encore aujourd'hui à se dire, tiens, il se peut qu'on va revenir aux années précédentes, où il y a même 40 ou 50 ans, où il pouvait y avoir des coupures ou une régulation un peu particulière. C'est quand même inquiétant en 2022. Donc à un moment donné, il faut arrêter de jouer comme ça avec les Français. Mais malheureusement, comme je disais juste avant, on mérite ceux qui nous dirigent. À un moment donné, on paye le fait de ne pas avoir voté ou de ne pas s'intéresser à certaines choses.
Amine, ça.
Non, mais on commence à être un peu habitué avec Emmanuel Macron qui, en permanence, à chaque fois, envoie l'ensemble de ses lieutenants allumer les braises sur les plateaux télé. Et puis ensuite, il arrive pour jouer les pompiers et expliquer à quel point tous ses ministres, tous ses secrétaires d'État ont dit des bêtises avant lui. Donc ce petit jeu-là, il a plusieurs avantages. D'abord, ça le fait. Enfin, d'abord, il joue le rôle du gentil flic. Et donc, dans ce jeu de rôle, vous imaginez bien que ce qu'il peut en tirer comme opinion positive. Et puis ensuite, ça a le mérite de créer chez le Français un sentiment de panique. Ce sentiment de dire il va y avoir des coupures, puisque
on l'a vu,
dans les dernières semaines, on a observé une économie de près de 7% d'énergie. C'est sans doute ce qui va nous permettre de passer les fêtes. On verra ensuite en janvier. Mais ce qu'il faut regarder de près, et il faut le rappeler, c'est que l'énergie électrique, c'est une énergie qu'on ne peut pas stocker. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a besoin de faire des économies d'énergie au moment où il y a des pics de consommation. Donc, il va falloir s'habituer à avoir un discours à la fois très, très tendu au moment où on a des pics pour justement alarmer les Français et les amener à consommer moins. Et puis, vous aurez au moment des périodes creuses, quand il fera moins froid, il fera un peu plus chaud, on va avoir plutôt un discours rassurant de la part du président de la République. Donc, il va falloir s'habituer à ce double discours à la fois de la part du gouvernement et l'ensemble des lieutenants d'Emmanuel Macron, et du côté plus rassurant, le discours d'Emmanuel Macron pour expliquer que tout va bien.
Eh bien, on revient dans une poignée de minutes et je donnerai la parole justement à Jessica Ellanger. Vous aussi, si vous voulez réagir au 0153 48 3000, on marque une courte pause, pub, et on se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Et si vous venez de nous retrouver, vous le savez, il est 18h55 précisément, c'est ici que ça se passe, les informés, commenter, analyser, décrypter l'actualité. Nous sommes en train de parler de cette coupure qui met un malaise chez certains d'entre vous, y compris de la panique. Alors on en parle, on parle de cette coupure d'électricité. Avant de donner la parole à Jessica Ellanger, cet extrait du directeur de la RTE, écoutez.
Alors, avant la fin de l'année, non. Et après la fin de l'année, et au début de l'année prochaine, il faut pas paniquer. Nous réalisons un certain nombre de scénarios qui sont finalement des hypothèses sur lesquelles nous travaillons. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles à prendre en compte. Il y a des bonnes nouvelles comme la baisse de la consommation, puisque vous le savez, quand on observe la consommation de ces dernières semaines, hein, de ces quatre dernières semaines, et qu'on la compare à une période 2014-2019. Alors pourquoi 2019? Parce qu'après on a eu les années Covid. On constate que cette consommation, elle a baissé de plus de 6%. Et si, rien que sur la semaine dernière, elle a baissé de 8,3%. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est
grâce à qui d'ailleurs?
Alors, grâce au départ.
Voilà, c'était un extrait chez nos confrères, justement. Alors, c'était Jean-Paul Roubin, le directeur exécutif de RTE, justement, et Jessica Longuer. Lui aussi, hein, il rebrousse chemin, parce qu'il s'est fait retoquer, rappeler à l'ordre par Emmanuel Macron. Là, maintenant, il dit, don't panic, ne paniquez pas, ne cédez pas à la panique. Il dit, oui, il y a une bonne nouvelle. Franchement, bon, mais c'est quelle grille de lecture doit-on avoir?
La grille de lecture, c'est que...
Ça marche de se refaire rappeler à l'ordre par le chef de l'État.
La première chose, c'est que, de toute façon, toute la population, elle est nerf tendu. Ça, c'est clair. Ça fait un bon moment depuis la crise Covid. On nous dit, premièrement, nous sommes en guerre. Ensuite, on nous dit, c'est fini l'abondance. Ensuite, on nous dit, pénurie d'essence. Ouais. Ensuite, on nous dit, plus d'électricité. Bientôt, on va nous dire, la fermeture des écoles. Et demain, et encore, et encore, et encore. Donc, en fait, finalement, on ne sait plus
quoi. Jessica va nous taper un coup de gueule, là.
Techniquement, on est fatigué. Je veux dire que aujourd'hui, le discours, de toute façon, peu importe ce que Macron dira, eh bien, il n'est plus audible. En tout cas, pour beaucoup de la population, il n'est plus audible. Et il a parfois aussi une communication qui est hors sol, déconnectée de la situation de la plupart des Français qui sont en situation de souffrance. Et aujourd'hui, on nous dit oui. Alors, oui, on a 6%, on a moins 7, on a plus 10. À un moment, on parle de personnes qui vont avoir froid. On parle de personnes qui vont manquer. On parle de personnes qui ont... Voilà, je veux dire, l'accès à l'électricité, c'est quand même un béaba. Les mairies ont fait des efforts. Les mairies ont baissé, ont même supprimé pendant une tranche horaire l'électricité. Donc, tout le monde fait des efforts et on en fait déjà assez. Donc, moi, je ne vois pas ce qu'il faut rajouter en plus là-dessus. En sachant aussi que la RTE, c'était elle qui avait commencé à lancer l'alerte. Donc aujourd'hui, revenir et faire un pas en arrière, à un moment, il faut être cohérent aussi.
Bon,
bah écoutez, donc soit on est en crise, soit on n'est pas.
Enfin, quand même, juste pour rassurer en deux mots,
Amilsa,
les fameuses coupures dont on parle, il faut quand même les mettre un peu en perspective. On parle de coupures qui n'excéderont pas deux heures
oui.
Essentiellement sur des heures creuses dans la journée, donc pendant que les gens sont au travail, etc. Justement pour permettre qu'au moment du pic, à 18h, quand on rentre chez soi, quand on prend sa douche, quand on allume sa télé, etc., on puisse avoir un niveau d'intensité du courant. Je ne sais pas comment il faut s'exprimer, je ne suis pas un technicien, je ne suis pas un sachant, mais en tout cas, c'est quand même assez limité en termes de désagrément. Et par ailleurs, ça ne touchera pas
pour les ménages. Mais quand on est à l'échelle d'un établissement scolaire, c'est plus la même chose.
Les aéroports, on parle des aéroports aussi.
C'est l'anticipation et le manque d'organisation. Et là, on va avoir les syndicats qui vont encore venir et qui vont se fâcher. Ils ont raison de se fâcher. Et on va perdre la main sur ce qu'on a.
Ce que veut éviter le gouvernement, surtout, c'est éviter d'avoir à importer de l'électricité parce que ça coûte beaucoup trop cher. On a été habitué à une électricité pas chère parce qu'on la produisait sur notre sol, parce qu'on avait un parc de centrales nucléaires qui était extrêmement performant et donc qui nous permettait même de vendre à l'étranger à la fois la technologie et l'électricité. Et aujourd'hui, on se retrouve comme un certain nombre de pays, puisqu'on n'a pas fait la transition comme il le fallait, on n'a pas été suffisamment vers l'éolien, on n'a pas été suffisamment vers le solaire, etc. Et du coup, on se retrouve prisonnier avec un parc nucléaire qui est pour moitié à l'arrêt complètement, une gabegie sur un certain nombre de projets de construction de centrales nucléaires. Et donc, on se retrouve avec une dépense beaucoup trop importante. Et ce que veut éviter le gouvernement, c'est d'avoir à importer de l'électricité qui nous coûtera beaucoup trop cher, sur laquelle, justement, le fameux bouclier tarifaire ne pourra pas s'opérer parce que l'électricité sera achetée beaucoup trop cher.
Le débat continue, effectivement. On va parler de la réforme des retraites. La réforme des retraites, vous savez, avec le 49.3 notamment. Alors, qu'est-ce qu'il prévoit, notamment, Emmanuel Macron, pour cette fameuse réforme des retraites, hein? Vous le savez que Elisabeth Borne, la première ministre, a reçu les différents leaders, les différents donc syndicats à tour de rôle aujourd'hui, toute la journée, donc depuis ce matin. Et pourquoi cette concertation, aujourd'hui, elle est en train de s'enliser. On n'a pas le sentiment que ça prend forme, hein, la réforme des retraites, Nadir Kaya.
Alors, moi, je ne suis pas un expert de la question. Ce que je peux dire, moi, déjà, c'est qu'il faudrait avoir une autre philosophie sur l'approche de la retraite. En France, on ne se pose pas cette question. On est encore à parler de de l'âge de la retraite. On oublie qu'il y a des différences entre les différents métiers, qu'il y a de la pénibilité, qu'il y a certaines réalités qu'il faut scruter détail par détail. Et encore aujourd'hui, là, on lance un pavé sans que les Français soient au courant réellement des dossiers dans le détail. C'est hyper compliqué. Après, là aussi, comme je disais, c'est une question de philosophie de vie. Est-ce qu'il faut absolument travailler très tard pour être heureux? Même le mot heureux ou parler du bonheur ou de profiter de sa retraite, c'est pas donné à tout le monde, hein, sachant que je crois un retraité sur trois ou sur quatre ne pourra pas aller en retraite parce que pour certains d'entre eux, ils seront amenés malheureusement à décéder. Exact. Et pour une partie des autres, ils seront dans des situations de santé très difficiles, donc ils pourront pas bénéficier de leur retraite pleinement. Là aussi, c'est compliqué parce qu'on donne l'impression que ça va être un poids, que tous ceux qui vont partir en retraite vont être un poids économique pour les Français, mais un poids en tout point de vue, alors que c'est pas vrai du tout. Je pense que là aussi, il faut avoir une approche différente, mais malheureusement, aujourd'hui en France et de façon générale, on est dans l'immédiatité. Et donc, on n'est pas dans la réflexion. On parlait du nucléaire, des énergies. Là aussi, c'est vrai que le gouvernement est en retard parce qu'il n'a pas mis en place des éléments alternatifs par rapport à cette situation. Et encore une fois, on est au pied du mur. Et là, pour les retraites, c'est pareil. La France, elle est en retard, quoi, sur plein de choses. Pourtant, on a les ressources, on a toutes les compétences pour. Mais politiquement, là aussi, on est encore sur des gens qui ne sont pas dans la réflexion, mais dans l'émotion. Il y a un problème. On fait croire qu'il y a une solution. Il n'y a pas de solution. On fait croire aussi que c'est la meilleure des solutions dans le plus pire des scénarios.
C'est compliqué, hein.
Et encore une fois, on parle de sujets qui sont là sur la table depuis des années et des années. On ne trouve pas de solution. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de courage politique, parce qu'il n'y a pas de vérité, parce qu'on a deux poids, deux mesures. On a des élites qui ne vivent pas le quotidien de la majorité des Français. Donc, ils nous font croire quand c'est le moment des élections qu'ils nous comprennent et qu'ils nous entendent. Et une fois qu'ils sont en place, en fin de compte, on s'aperçoit que c'est des gens qui vivent à travers les lobbies qui sont en France, sur tout point de vue, et qui, eux, dictent leurs règles aux politiques en place. Et puis, les Français, malheureusement, subissent. Moi, je fais juste je finirai là-dessus, une parenthèse. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, il y a une inflation comme jamais, et bizarrement, personne dans la rue. Est-ce que c'est le traumatisme lié au Covid, ou la façon dont Macron a tapé sur les gilets jaunes? Mais là, je crois qu'on vit ce qu'il y a de pire depuis des années. Moi, j'ai un certain âge, j'ai jamais connu cette situation-là, et je pense qu'on est des millions comme moi, mais bizarrement, ça passe crème. Mmh. Voilà. Mmh.
Ça passe crème, comme disent. Effectivement. Aminsa, oui, ce débat qui sans fin.
Bah, en fait, j'ai quand même l'impression que le président de la République et Mme Borne sont complètement arc-boutés sur cette histoire des retraites. C'est-à-dire que du fait que beaucoup ont échoué avant sur cette réforme, le président de la République, fort de sa réélection, fort de son attitude jupitérienne, veut nous expliquer que lui, quoi qu'il arrive, il tiendra bon, il fera sa réforme des retraites, là où tous les autres ont échoué avant lui. Sauf que manque de peau pour lui, le Conseil d'orientation des retraites dit « cette réforme n'est pas nécessaire ». Elle ne se justifie pas d'abord parce qu'il n'y a pas de péril sur le financement de notre retraite par répartition. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, sur la question du budgétaire, le Conseil dit qu'il y a peut-être un déficit à l'horizon de 25 ans, donc aux alentours de 2050, mais ce sera largement finançable par d'autres moyens d'ici là. Ouais. Donc, rien ne justifie cette réforme. Et donc, la raison qu'on peut se poser, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi ? La première, je pense que c'est d'abord parce que le président de la République veut absolument avoir sa retraite. Il y a une forme d'ego derrière ça. La deuxième, c'est que, tout simplement, il veut respecter ce que le diktat de Bruxelles, qui demande impérativement que cette réforme soit engagée. Et d'ailleurs, j'ai entendu Bruno Le Maire nous expliquer que cette réforme, elle est aussi nécessaire pour financer nos services publics, nos écoles, nos hôpitaux. Enfin, c'est un mensonge. On n'a jamais financé des services publics par des cotisations retraite. Ce n'est pas vrai. Les services publics sont financés par l'impôt, uniquement par l'impôt, et pas par des cotisations retraite. Donc, Monsieur Le Maire nous prend pour des trompettes.
Pour des trompettes, enfin, c'est vous qui le dites, hein. Jessica Longuet.
Responsabilité.
Attristé parce que en fait ça me fait penser, ça me rend aussi super nostalgique, en tout cas aussi suite à ton discours, parce que
c'est vrai que pas de la même génération.
En plus, ben oui, c'est parce ça que moi, quand j'étais en maternelle et même en CP, CE1, on me disait que la France est un pays social. On m'a dit, la France est un pays social, nous, on aide les personnes qui sont dans le besoin et on cotise tous pour ce pays et on partage. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle de réforme, en fait, on a peur. Et aujourd'hui, au contraire, les jeunes, ils vont vous dire, bah, nous, quand on sera vieux, on n'aura plus de retraite. Mmh. Et ça, c'est malheureux.
Oui, c'est carrément intégré.
Donc ça a été acquiescé, c'est rentré même dans, bah, dans la matrice même des jeunes.
Moi, je vis dans un pays
où, de toute façon, ça sera chacun pour sa pomme. Et vous, est-ce qu'on on se rend compte du discours qu'on renvoie quand même à cette jeunesse qui doit construire le pays? Et c'est là où ça m'attriste. De toute façon, Borne, elle essaiera continuellement. Elle se fera encore taper sur les doigts par les syndicats. Elle se fera encore taper sur les doigts par les partis de gauche.
Et elle va dégainer le 49-3.
Vous me permettez une belle transition, mon cher Aminsa. Vous savez pourquoi? Parce qu'on veut parler de ce 49-3. Le 49-3 qui a été dégainé, déclenché. C'est le 8e pour faire adopter
Rien que le 8e.
Rien que le 8e, oui. Ouais, pour le budget, effectivement.
Il faut...
Alors, jusqu'à quand surtout cette histoire de 49-3? Ah oui, la question est là.
Je me souviens d'une émission où on avait abordé ce sujet-là.
Oui.
Certains se vantent de dire que c'est dans la Constitution, mais il y a des choses qui sont peut-être dans la Constitution qu'il faut peut-être changer ou enlever.
Et les filles,
moi, j'ai dit que c'était un acte anti-républicain parce que c'était un passage en force.
Et ils ont déposé une motion, les filles.
Là, on le voit. Bon, après, on peut l'expliquer par rapport à la composition de l'Assemblée nationale et la difficulté d'avoir des débats sereins et d'apporter peut-être des solutions. Mais à un moment donné, il faut peut-être aussi remettre en cause l'utilisation du 49-3, tout simplement. C'est pas parce qu'on fait quelque chose que c'est quelque chose qui est valable ou qui peut porter ses fruits, notamment pour la majorité des Français.
Ouais.
Moi, je trouve que c'est une utilisation excessive.
Et les filles qui déposent une motion de censure?
Oui, mais c'est un classique, ça.
C'est un classique. Bon, oui, de toute façon,
ils ont parfaitement raison de le faire. Enfin, je suis désolé, ils s'inscrivent dans l'opposition. Et c'est là où je les rejoins, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'opposition. Il y a un 49-3 qui arrive parce qu'ils sont en opposition avec le projet de loi, que ce soit le projet de loi de finances ou le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Ils sont en opposition, ils le montrent avec une motion de censure. Mmh. Celles et ceux qui ont commencé par voter les motions de censure, puis ensuite qui s'en sont écartés, notamment dans la NUPES, je trouve qu'ils manquent de courage. Et je vais aller plus loin. Mais parce que ça répond à votre question, jusqu'à où les 49-3? Et ben jusqu'à ce que la représentation nationale, qui est l'opposition, qui est majoritaire, puisque l'ensemble des oppositions est majoritaire, aura suffisamment de courage et d'affronter une potentielle dissolution, parce que souvenez-vous ce que disait le président de la République, si les projets de loi ne passent pas, je dissous l'Assemblée. Alors certains ont commencé à trembler un petit peu. En se disant, si on retourne vers les électeurs, on n'est pas sûr de d'en sortir victorieux.
Vous pensez que c'est
donc
ça?
Donc elle est là, mais c'est évident. Et donc le jour où la représentation nationale dira on est prêt à aller à l'élection législative, et ben à ce moment-là, vous allez voir que le 49-3, il sera pas dégainé aussi facilement.
Et Nadir Kaya, vous le pensez vraiment ça? Ouais, je veux pas perdre ma place et mon salaire.
Bah, je pense qu'il y a des députés qui...
Vous pensez qu'il y a de ça?
Bah, bien sûr, c'est comme dans tout. En tant que moi-même syndicaliste, connaissant un petit peu le monde syndical, il y a effectivement des gens qui vivent de leurs privilèges.
Donc
en politique, je sais pas s'il y a plus lâche, mais bon, c'est sûr qu'aujourd'hui les politiques ne répondent pas aux vraies attentes des Français. Mais bien évidemment qu'il y a des députés qui pensent qu'à leur place et qui sous cette menace de Macron préfèrent ne plus rien faire et rester tranquille pour éviter ça. Mais comme ça a été dit, quand on est en politique, à un moment donné, il faut du courage et puis aussi de la morale et de l'éthique. Et là, je pense que c'est des éléments ou des éléments qui manquent à beaucoup de nos politiques, parce qu'à un moment donné, quand on arrive au niveau de l'Assemblée nationale, c'est vrai que le combat est peut-être différent de ce qu'on pouvait croire sans avoir été élu, mais une fois qu'on est dans l'hémicycle et qu'on vote des lois et qu'on participe à ce débat républicain, bah, on a des idées, il faut les défendre jusqu'au bout. Si on n'est pas capable, bah, c'est un peu comme tout, on prend la porte. Mais voilà.
Mais ce qui est intéressant dans la séquence politique après, là, qui va s'ouvrir, excuse-moi Jessica, c'est que vous avez à la fois les Républicains, le Parti Socialiste et les écologistes qui sont en plein congrès. Donc vous avez les lignes qui sont en train de se dessiner au sein de ces familles politiques. Vous avez par exemple Pradier, qui était l'un des candidats les Républicains qui a été écarté dès le premier tour, qui représentait, on va dire, la branche un peu sociale, gaulliste.
La droite sociale.
Voilà, qui était plus proche de Macron. Lui vient d'être éliminé. Donc ça veut dire que les Républicains ont envoyé un message, en tout cas les sympathisants Républicains ont envoyé un message en disant « Nous, on veut rester les Républicains ». Donc quelle sera la décision du groupe à l'Assemblée nationale quand on verra Éric Ciotti ou M. Retailleau présider les Républicains? Ensuite, vous avez de l'autre côté les socialistes qui sont exactement dans la même situation. Vous avez à l'intérieur des gens qui disent il faut surtout pas aller travailler avec Mélenchon. Et vous avez ceux qui disent non, il faut absolument jouer le jeu de du rassemblement à gauche. Ils vont avoir des difficultés à se mettre d'accord parce que sur le fond, ils ont fait un accord électoral qui leur a permis de se maintenir avec un groupe conséquent à l'Assemblée nationale, alors que franchement, ils auraient dû s'éteindre définitivement. Et là, on voit bien que ces lignes qui vont se dessiner vont devoir tenir compte des équilibres politiques exact. Au sein de l'Assemblée nationale. Et ça, je ne suis pas sûr que ce soit déjà fait dans l'esprit des uns et des autres.
Absolument. C'est vrai, c'est assez proche de la réalité. Jessica Langer, avec évidemment le 43 qui est dégainé en permanence. C'est la huitième fois.
Bah, je pense que premièrement, c'est de toute façon, à partir du moment où on fait un 49.1, 49.3, on ne respecte plus de toute façon la parole de la population.
Mais pourquoi vous dites ça ? La Constitution le permet ? Pourquoi je non, sais parce ça, vous êtes trois à le dire ça alors que la Constitution le permet ?
C'est pas parce que la Constitution.
Et puis il n'y a pas de majorité à l'Assemblée.
Parce que la Constitution le permet que ça veut dire que. Et puis il n'y a pas de majorité.
Elle le permet, mais ça démontre surtout que c'est un passage en force. Donc quelque part, c'est un échec.
Pas la majorité.
Donc utiliser le 49.3, c'est surtout.
Mais il n'y a pas de majorité. Comment vous voulez ?
Il n'y a pas de majorité. Si la majorité, elle est à l'opposition. Et donc, à un moment, il faut aussi
que le gouvernement... Oui, mais c'est le jeu des divisions de la majorité. Donc, c'est pour ça que le quinquennat, il va être infernal. Et si vraiment, comme on disait juste avant, il n'y a pas cette entente et cette capacité d'aller jusqu'au bout du côté de l'opposition, eh ben, il y aura une rafale de 49-3. À un moment donné, la seule façon de le combattre, c'est de regrouper les forces, notamment de l'opposition, et de faire face à ça. Mais tant qu'ils vont être eux-mêmes dans des combats comme ça, de division en interne, avec ceux qui sont plus à droite, plus à gauche ou plus au centre, ben Macron, pour lui, c'est du pain béni. Donc le 49-3, il passera aisément. Et elle est là, la complexité du quinquennat et des débats et des positions des uns et des autres politiquement. Mais je rappellerai que l'Assemblée, elle est à l'image de la France. Elle est complètement déchirée. C'est le résultat de 40 ans d'incapacité de la gauche principalement et de la droite à pouvoir répondre aux aspirations des Français. Et puis, quelque part, on paye tout ça. Mais tu le disais juste avant, au-delà de responsabiliser les politiques ou de s'en prendre aux politiques, moi je le dirais tout le temps, et pour être responsable associatif en banlieue, je le dis également aux banlieusards, ce sont certes les responsabilités partagées, mais les premiers responsables, ce sont les Français.
Bien sûr.
C'est toujours pareil, on peut taper sur les politiques, mais les Français, quand on est conscient, quand on est citoyen, c'est être dans l'action, c'est pas simplement être dans la réaction en se plaignant, c'est être au quotidien citoyen. Et ça, c'est compliqué.
Jessica, vous n'êtes pas d'accord ?
On donne un mandat à certains élus, c'est pour qu'ils prennent des décisions et qu'on puisse être représenté. À un moment, s'il y a une faille quelque part, c'est qu'à un moment, la personne soit démissionne ou soit on bouge. Et moi, je pense que
pour
avoir du courage, j'en parlais tout à l'heure, pour avoir du courage, premièrement, pour avoir du courage, il faut se confronter à la réalité des gens. Parce que moi, je vous jure que quand on se confronte à la réalité des gens, quand on voit des gens pleurer, quand on voit des gens à genoux, quand on voit des gens sans dessous dessous, parce qu'ils n'en peuvent plus de la vie, en fait, on a du courage. On a du courage pour se lever, pour dire que là, c'est bon, on arrête tout parce que c'est plus possible.
Oui, mais
tant qu'on sera, on aura des élus qui sont des bureaucrates maintenant, parce que techniquement, la vie, elle se résume entre le bureau, on va à l'hémicycle, on remonte, on fait des réunions, on est surchargé de commissions, surchargé de réunions X. Entre temps, c'est du temps qu'on perd pour éviter de se confronter à la réalité. Et c'est pareil pour les syndicats. On est toujours au CSE, on est toujours assis, ça, etc. À quel moment on est près des salariés ? À quel moment
je peux en parler parce que je peux faire le parallèle avec les politiques, c'est toujours pareil. C'est pas parce qu'on vote pour nous, donc on nous donne un mandat sur une période bien précise, qu'on se doit se délaisser de ceux qui ont voté pour nous, pour mener nous-mêmes cette politique. Non, c'est du travail en permanence.
Le débat continue.
Des uns et des autres, si et des uns bien. Avec les autres.
J'ai le réalisateur Anthony qui me dit qu'il faut absolument lancer la pub, je la lance et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présenté par Adil Farkan.
Et 19h30, vous le savez, c'est avec Nadir Kaya, le président de Banlieue Plus, mais aussi un élu de la Courneuve, Amine Saha, et une autre élue également, Jessica Elonguer, qui est élue sur la ville de Creil. Messieurs, madame, eh bien, à qui je devais la donner la parole au fait ?
C'était
Jessica Elonguer, juste avant la pub, effectivement.
Alors,
merci messieurs.
On l'a balancé direct. C'est
vrai, vous étiez tous comme ça. C'est Jessica. C'est Jessica et Louis. Vous avez vu comment ils vous ont regardé?
Oui, non, mais
les deux. La directrice, ils ont tendu leurs bras, ils ont dit. Non, c'est elle.
C'est de la politesse.
On te balance.
C'est la galanterie.
La galanterie, bon, d'accord.
La galanterie.
Vous auriez pu vous en passer.
Moi, j'ai pas vu ça comme ça.
Oui, moi aussi, j'ai pas vu ça comme ça. Mais bon. Oui, on était sur le 49-3.
Ben oui.
Et donc, du coup, non, mais encore une fois, pour moi, c'est. c'est n'importe quoi. Vraiment, le gouvernement, c'est n'importe quoi. Et moi,
pourquoi ça serait n'importe quoi? C'est un peu facile de dire c'est n'importe quoi.
Non, c'est n'importe quoi. Alors, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'à un moment, quand il n'y a pas de dialogue, forcément, tout devient n'importe quoi. On nous impose des décisions, on va subir les décisions, on va avoir un ressenti par rapport à ces décisions et on va réagir de manière aussi peut-être disproportionnée. À un moment, pourquoi on dialogue? C'est parce qu'à un moment, il faut savoir ramener les choses, rapporter les choses de manière pédagogique et que afin que tout le monde puisse comprendre et tout le monde puisse au moins, ouais, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, mais au moins avoir une position claire. Comment on a une position claire lorsqu'il n'y a pas de débat? Sur quoi on se base? Parce qu'aujourd'hui, l'argument de Madame Borne, c'est de dire, eh bien, on est pressé. On a besoin que ça passe vite.
Bah oui, il faut finaliser le budget avant la fin de l'année 2023 pour 2023. La fin de l'année 2022.
Il n'avait qu'à
pour
2023. Pour anticiper.
Comment vous faites tourner la France? Comment la France va tourner s'il n'est pas validé ce budget?
Il n'avait qu'à
la France ne peut pas. Elle sera paralysée.
Alors ça, c'est pas vrai, Adil
Fahmy. Bah si, c'est vrai. Si. Même si le Parlement ne vote pas le budget, c'est mort.
Alors, même si le budget tarde à être voté, et d'abord on n'était pas à un jour près, donc on aurait pu terminer les discussions à l'Assemblée avant d'engager le 49-3. Moi, c'est mon point, et on en discutait tout à l'heure, c'est mon principal reproche, c'est que l'on use du 49-3, moi ça ne me dérange pas du tout. C'est un outil constitutionnel, il est là, tant qu'il est là et qu'on n'a pas décidé de le supprimer, ouais, on peut en user. Sauf que, entre la déclaration de politique générale de Mme Borne devant l'Assemblée, qui expliquait qu'elle allait faire tout mettre en œuvre pour engager les compromis nécessaires et faire passer ces textes, et à la moindre difficulté, avant même la fin des débats, elle engage le 49-3 sur le premier texte. Donc moi, il est là mon problème. Donc sur le 49-3, tant qu'il existe, on peut en user, mais c'est pas parce que c'est le budget que forcément on doit aller plus vite, parce que d'ailleurs, on a même fait peur en disant les fonctionnaires seront pas payés, etc. Ce n'est pas vrai. On peut continuer de payer des fonctionnaires, même si le budget, il est là pour structurer la dépense publique sur les politiques publiques, pour déterminer le cap. Pas pour dire on dépense ou on dépense pas. On peut continuer de payer des fonctionnaires, même si le budget n'est pas voté. Ça, c'est pas
et puis le budget peut être dépassé par la suite. Hein. Il peut être dépassé et puis on peut rajouter.
On peut le rectifier par ailleurs. On fait des projets de loi rectificatifs.
On le fait dans le domaine du travail.
Voilà. De nouveau le 49.
On le fait dans le domaine du travail, c'est exactement la même chose.
Si on en usait, ça va leur retomber dessus.
Bah, de toute façon, ils sont limités quand même en termes d'utilisation. Donc il y a, je crois, l'utiliser trois fois sur le projet de loi de finances, trois fois sur le projet de loi de finances rectificatif.
Une fois, c'est trop.
Oui, mais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout à l'heure, Adil Farkan posait la question, jusqu'à quand? Ben jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la possibilité de l'utiliser, tout simplement. Et donc jusqu'à également que les parlementaires prennent leur courage à deux mains en disant au président de la République, si vous voulez dissoudre, monsieur le président, allez-y, nous y sommes préparés et nous y sommes prêts.
Ben comme dit Nadir Kaye tout à l'heure, ils tiennent à leur salaire et à leur statut, c'est ça?
C'est ça.
Pas tous, hein, moi pas je ne veux pas généraliser.
Pas tous, notamment ceux qui sont très ancrés, qui risquent rien. Tu peux les renvoyer 10 fois devant les électeurs, ils ressortiront victorieux parce qu'ils sont installés, etc. Par contre, certains qui ont été élus dans des vagues alors qu'ils étaient inconnus du grand public, ceux-là, ils ont vraiment du souci à se faire. Et donc, tant qu'ils ne prendront pas leur courage, on n'y arrivera jamais.
On estime représenter l'intérêt général. Je pense que tout élu doit prendre ce risque. Que un jour, ça passe et ça passe.
Exactement.
Pas.
Je veux juste qu'on parle d'un mot chacun, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Vous savez quoi? On apprend aujourd'hui que 7 jeunes radicalisés soupçonnés de préparer une action violente ont été interpellés à Strasbourg. Ils étaient connus de la DGSI et puis voilà que rejaillit ce débat sur les jeunes radicalisés soupçonnés de préparer une action violente en France. Qu'est-ce qu'on on nous prépare à quoi quand on nous dit ça?
Je ne sais pas, j'ai entendu une nouvelle pratiquement identique, mais du côté de l'Allemagne, sur les extrémistes d'extrême droite.
L'Allemagne aussi, oui.
Après, bon, moi là-dessus, tu connais peut-être un peu mon avis là-dessus. Moi, je suis partisan d'aller dans le fond du sujet, notamment sur la radicalisation en France et sur cet islam pervers qui est d'un côté montré du doigt comme pas bien, mais de l'autre côté les financeurs, eux, sont bienvenus. Donc c'est un peu compliqué. Il y a un islam en France, il faut discuter avec les musulmans, il faut parler de tout, il faut se dire tout, il n'y a pas de tabou en France, même en islam, à condition d'avoir les bons sujets et surtout les bonnes personnes autour de la table. Après, c'est souvent lié malheureusement à certaines conditions sociales ou certaines situations en banlieue qui font que certains sont radicalisés. Et c'est la question des quartiers et des banlieues depuis 30 ou 40 ans qui n'est pas réglée. J'en profite pour dire à Monsieur Macron, bah, quand vous voulez un état généraux des banlieues pour régler tous ces problèmes, pas simplement de la radicalisation, mais de tous les problèmes qui persistent en banlieue. Et à partir de là, si on va déjà dans ce chemin-là, je pense qu'on trouvera une issue sur le problème de la radicalisation et de l'extrémisme dans nos quartiers, notamment lié à notre religion, l'islam.
Aminsa.
Bah, sur cette affaire, on a très peu d'éléments quand même, parce que c'est une arrestation qui a eu lieu le 18 novembre dernier, donc il y a près de 3 semaines maintenant.
C'est ça.
L'information ne sort qu'aujourd'hui. Mmh. Et donc bravo à la DGSI qui a su faire son travail correctement. Mais aujourd'hui, on ne sait pas qui sont ces gens. C'est-à-dire, on parle de Russes et de Tadjiks, si je ne dis pas de bêtises. On ne sait pas de quelle radicalité on parle, de quelle radicalisation on parle.
Ils font référence
quand
même.
Donc il y a des références.
On le sait plus ou moins.
C'est quand même assez léger. Alors ça fait sûrement, ça nous rappelle sans doute les attentats de 2018 qui avaient eu lieu en décembre 2018. Donc peut-être qu'on s'orientait vers une sorte de commémoration avec ce qui était préparé. Et en tout cas, bravo d'abord aux services de la DGSI qui ont pu démanteler ce projet.
Vous avez 10 secondes, je suis désolé. Jessica Longuerre.
Eh bien, c'est vrai que j'ai du mal quand on met un chrono, mais j'espère qu'on va pouvoir voir clair dans cette affaire. Il n'y a aucun élément qui nous permette d'avoir des éléments concrets sur leur action de violence. Donc, tant qu'on n'a pas d'éléments, on ne peut pas se prononcer. En tout cas, on sait que ce sont des jeunes qui sont d'origine étrangère, quel que soit de toute façon le pays d'origine. À partir du moment où on a des jeunes qui sont dans des situations de déviance, eh bien, moi, je pense qu'il est de notre devoir, en tout cas, de les ramener sur le chemin de la citoyenneté. Et donc, du coup, moi, je pense qu'il y a un vrai travail là-dessus à faire sur l'accompagnement des jeunes et l'inclusion sociale.
Et pas sucrer
c'est plus
les
10 secondes, c'est 1 minute. Là. Merci à Jessica Longuerre. À très bientôt.
À bientôt.
Élu sur la ville de Creil. Merci au patron, au président de Banlieue Plus.
Merci Adil. Merci à Kaya. À très bientôt. Aux éditeurs, à tout le monde.
À notre élu de la Courneuve. Merci Aminsa.
Merci Adil Farkan et bonne soirée à tous les auditeurs.
Absolument. Time Sport, exceptionnellement ce soir, pas d'émission. Merci à la réalisation Anthony. Vanessa, 21h. Hein. Oui, plus que jamais. À demain avec autant de plaisir, mais surtout. Qu'est-ce qu'on
on
fait
ne lâche rien.
On ne lâche rien.
L'équipe du Maroc.
On supporte. Samedi. Samedi 16h. Exactement. Vous avez bien. Samedi 16h, le rendez-vous Maroc-Portugal. Et puis et aussi à la France.
20h samedi.
20h. À ne pas manquer. Allez, à demain.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.